L'Union paysanne revient à la charge et souhaite que la Régie des marchés agricoles du Québec autorise des productions hors quota plus importantes et qui permettraient, comme dans les autres provinces, de rentabiliser de petites fermes et de répondre à une demande spécifique des consommateurs. Maxime Laplante, président de l'Union paysanne.
Ce qu'on remarque dans l'ensemble du pays, c'est que c'est généralement beaucoup plus permissif que partout ailleurs que ce qui se passe au Québec. Je prends l'exemple de la Colombie-Britannique où vous pouvez avoir jusqu'à 2000 poulets sans quota, ou même au Nouveau-Brunswick où vous pouvez avoir un quota de 40 000 poulets, mais ça vous coûtera à peu près rien. Vous pouvez même vendre du lait cru jusqu'à concurrence de 50 litres par jour à la ferme, sans avoir besoin d'un quota. Et pourtant, toutes ces provinces-là sont soumises au même régime de gestion de l'offre à l'échelle canadienne. Donc, on comprend mal pourquoi est-ce que le Québec serait de loin la province la plus restrictive dans ce domaine-là. Donc, c'est la Régie qui est censée superviser toute cette histoire de gestion de l'offre, de plan conjoint, toute la réglementation qui l'entoure. Normalement, la façon dont ça fonctionne, c'est que chaque fois qu'il y a un regroupement de producteurs qui par exemple, on a la moitié des personnes autorisées vont avoir le droit de vote. Il suffit qu'il y ait les deux tiers de cette moitié-là qui s'entendent pour établir un plan conjoint. Et après ça, automatiquement, il y a création d'un office de producteur. Puis l'office de producteur décide ensuite quelles sont les modalités de mise en marché, les prélevés, etc. Et la Régie doit entériner ces changements-là par la suite. Fait que la Régie est un peu la supervision gouvernementale ou paragouvernementale de la mise en marché. C'est un peu ce qui se passe partout à l'échelle de la planète. C'est que la possibilité de vendre des denrées directement ou sans passer justement par les offices de producteurs ou les contrôles des différentes fédérations de l'IPA, ça permet une flexibilité qui n'est pas accessible autrement. Je donne un exemple. D'avoir 99 poulets présentement, c'est le cas de 99 poulets, c'est la limite, ou 24 dindons, ce qui est absolument ridicule. Ça veut dire que si je veux avoir la possibilité de faire ça, à moins de payer des fortunes, on parle de 280 $ par poule pondeuse, on parle de quoi, de environ 700 $ ou 800 $ par mètre carré d'élevage dans le cas du poulet, c'est complètement prohibitif. Ça veut dire que si je veux produire mes 99 poulets, je suis quand même obligé d'avoir un petit bâtiment pour les loger en hiver. Ça me prend une mangeoire, un abreuvoir, il faut que je m'en occupe. Puis là, je vais aller vendre quoi, là, une couple de douzaines par semaine. Jamais j'arriverai à rentabiliser l'opération. Si j'avais la possibilité d'écouler 500, 1000 ou 2000 poulets, à ce moment-là, avec une autre production en parallèle, que ce soit du lapin qui est sous quota aussi, soit dit en passant, donc là, je pourrais aller chercher un petit revenu avec lapin, volaille, des fruits, des légumes, de la viande, en tout cas, bref, tout ça ensemble, de façon à avoir une entreprise diversifiée. Mais présentement, avec 99 poules ou 24 dindons, il y a pas moyen de rentabiliser ça et la demande est là. Ce qu'on prétendait depuis la Fondation Union paysanne, l'Université Laval, par le biais de son groupe de recherche Cyrano, a fait l'étude de cette question-là. Qu'est-ce qu'il en est de la mise en marché en circuit court, leur quota, la mise en marché directe, et leurs conclusions sont exactement les nôtres. On a une étiquette universitaire qui est rattachée à ça, mais essentiellement, c'est la même histoire. Donc, on parle d'un outil possible de diversification des opérations agricoles, d'aller chercher un petit revenu d'appoint qui va consolider la situation financière d'un paquet de fermes de petite taille sans dérégler le marché. En Colombie-Britannique, ils n'ont pas mis à terre tout le système de distribution des grandes villes ou quoi que ce soit parce qu'ils ont permis à des éleveurs d'avoir 1000 ou 2000 poulets. Et pour toute la question de la salubrité, toutes les études montrent qu'il n'y a aucun problème à partir des petits élevages, même s'il y a une différence à aller chercher, elle est à l'avantage des petits élevages. En tout cas, tous les gens savent que s'ils veulent acheter un poulet directement du fermier, c'est parce qu'ils connaissent la différence de qualité, tout simplement. Et quelle meilleure inspection que d'avoir un lien direct avec son fermier. Si jamais il y avait quelques problèmes que ce soit au niveau de la salubrité, le fermier, il perd son client automatiquement. Ça va se savoir tout de suite. La traçabilité la plus parfaite, c'est encore mieux que visite de ferme deux fois par année pour s'assurer que tout est conforme. En gros, le processus, c'est qu'au mois de juin, il va y avoir une discussion de gestion, donc comment vont s'établir les détails logistiques, heure, lieu, date de la rencontre publique, parce que ce qu'on a demandé, c'est qu'il y ait effectivement audience. Donc, il va y avoir d'autres parties prenantes qui vont intervenir dans le dossier, ça c'est très clair. Puis d'ailleurs, on a toujours demandé qu'il y ait un débat, puis que de voir les fédérations de l'UPA qui demandent d'être entendues aussi, ça fait partie de la chose aussi. On veut justement qu'il y ait une discussion sur la mise en marché de poulets, d'œufs, puis éventuellement d'autres choses. En tout cas, commençons par ce bout-là. Et il y aura vraisemblablement donc la séance publique quelque part en automne, d'après ce que nous dit la régie.
D'autres estiment cependant que c'est par la voie de la grande distribution que l'on pourra bien servir les consommateurs, ce qui, selon le professeur Sylvain Charlebois de l'Université Dalhousie, n'empêche pas nécessairement de développer des productions dites de proximité. Je l'ai rencontré au CIAL Montréal. Sylvain Charlebois, bonjour.
Bonjour.
Sylvain Charlebois, vous êtes au Salon international de l'alimentation de Montréal et vous faisiez une présentation il y a quelques heures maintenant. L'avenir de la distribution alimentaire. Optimiste, moins optimiste, des points d'ombre en vue?
Moi, je suis optimiste pour le consommateur parce que le consommateur va avoir accès à une plus grande variété de produits, à mon avis. Il y a plusieurs canaux de distribution qui se développent actuellement en marge, en fait, des grandes bannières, disons. Hein? Il y a plusieurs petites PME qui se développent et, en fait, transige avec le consommateur directement au lieu de passer par les grandes bannières, ce qui est intéressant en soi. Donc, il y a un autre genre d'écosystème qui se développe pour supporter l'innovation. Mais, évidemment, l'agriculture doit suivre et c'est pas toujours évident de faire ça. Mais, en gros, le plus grand élément perturbateur, c'est ce qu'on a discuté ce matin. En fait, il y en a deux. D'abord, il y a l'effet Amazon, donc le commerce électronique. La plupart des bannières sont pas prêtes. Donc, on s'outille tranquillement pour contrer l'effet Amazon. Et l'autre aspect qui est, à mon avis, une plus grande menace encore, c'est le comportement du consommateur. On consomme de moins en moins de nourriture à la maison. On consomme de plus en plus hors ménage. Alors, tout le système agroalimentaire va devoir s'ajuster et on pense au prêt à manger. On pense évidemment à la restauration. On pense aussi au prêt à cuisiner, parce que c'est un volet qui vaut... C'est un marché qui est de 150 millions de dollars au Canada maintenant. C'est un volet qui se développe avec les Miss Fresh, Chef's Plate, tout ça. Là. Donc encore là, on voit là, vraiment qu'il y a un marché qui se développe, qui n'existait pas il y a quelques années.
Et les entreprises québécoises et canadiennes qui vont vers le commerce électronique, il va falloir qu'on accélère le pas, là, parce que, justement, des Amazon dont vous parliez, eux, ils ont étudié le marché, ils continuent de l'étudier, en accélérer. Absolument. Et puis, ces gens-là, les gens, les producteurs locaux, etc., il va falloir qu'il y ait des annonces, des mises en place assez rapidement. Là.
On le voit, dès qu'on visite un supermarché aujourd'hui, on voit que les stationnements pour le click and collect, là, sont tout près de la porte, pratiquement plus près que pour les voitures avec femmes enceintes. On voit que la priorité est là pour eux. Bien, vous savez, le commerce électronique au Canada, c'est un marché mature. Hein? On se comprend bien, là, c'est à peine 1,5 % du marché. Et si on regarde au niveau de la compétition, Amazon actuellement a 20 fois plus de ventes en ligne pour la nourriture au Canada que les 10 autres compétiteurs combinés ensemble.
Mais tout ça, est-ce que ça ne va pas un petit peu à l'encontre de ce que l'on dit qui doit être fait, c'est-à-dire manger plus local, encourager les productions près de chez nous, à développer des produits du terroir, locaux, régionaux, des économies de proximité? Est-ce que tout ça ne va pas à l'encontre de ça?
Il y a des tensions dans le système, hein? Puis ces tensions-là, évidemment, c'est souvent dans la tête des consommateurs. Les consommateurs veulent de la valeur, veulent acheter peut-être local, mais ils manquent de temps. Donc, on voit qu'il y a une tension entre le volet pratique et le volet, disons, valeur ajoutée des ingrédients, des produits alimentaires.
Donc, de là, effectivement, comme on le disait tantôt, de là l'urgence pour des entreprises plus petites, plus locales, plus régionales, de s'embarquer rapidement dans des processus, par exemple, de vente en ligne.
Moi, je suis très optimiste par rapport aux PME québécoises et canadiennes. Je pense qu'il y a encore plus de place pour eux. À raison du fait que Amazon réveille, a créé un éveil cybernétique là, au Canada, bien, on donne une chance à des petites PME de développer des canaux de distribution à moindre prix. Ça coûte rien. On n'a pas besoin de courtier, pas besoin d'agent, pas besoin de même néo-social. Les kiosques ici coûtent très cher. Il y a beaucoup de PME qui n'ont pas les moyens d'être ici. Mais en ligne, on leur donne une vie, on leur donne une chance.
Sylvain Charlebois, merci beaucoup.
Merci.
Ici Lionel Levac. Peut-être l'avenir se trouve-t-il entre les deux, entre des réseaux de circuits courts à vocation plus locale et des grands commerces approvisionnés par d'importants distributeurs à vocation plus nationale, si l'on veut. À bientôt.